guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Les Français vont au café, pas du tout pour boire. Ils y vont pour parler. En réalité, c'est un lieu semi-public, semi-privé, qui intimise la conversation sans l'intérioriser, n'est-ce pas? Je crois que ça devrait être mis en rapport d'ailleurs avec les caractères traditionnels, disons, de ce qu'on appelait autrefois l'esprit français. Au fond, ce sont des lieux pour moralistes, les cafés.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Ce matin, nous allons parler des bistrots depuis deux siècles. Nous aurions pu évidemment les qualifier autrement. Bouchons, bars, cafés, boussingots, tavernes, cabarets, caboulots, abreuvoirs, assommoirs, gargotes, bousins, mastroquets, bougnats, beuglants, brasseries, estaminets, guinguettes, bastringues, boui-boui, buvettes, j'en passe, et d'excellents. Et vous conviendrez facilement que cette formidable vitalité linguistique parle assez fort pour celle de la réalité sociale dont il s'agit. Le débit de boisson, son histoire et son organisation peuvent être vus en somme comme une métonymie de la société française, comme un lieu central dans la sociabilité, qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit rurale. Cette sorte d'agora en réduction a toujours appelé des appréciations contrastées. Tantôt on a célébré le bistrot comme un refuge précieux pour les solitudes et pour les solidarités, tantôt on l'a vilipendé comme risquant de conduire, l'alcoolisme aidant, vers les pires perversions et vers les pires déchéances. À telle enseigne que la police au service de l'ordre public n'a jamais cessé de s'en préoccuper. Il est question d'une histoire à la fois matérielle et culturelle, une histoire foisonnante en multiples avatars. Laurent Bille, maître de conférence à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ne s'est pas laissé intimider par cette efflorescence. Et il nous donne une puissante histoire populaire des bistrots où nous allons, ce matin, puiser à pleine main. Les bruits, les musiques, les odeurs, avec le goût de l'absinthe sur les lèvres et le claquement des cartes à jouer sur les tables, avec l'habileté mobile des garçons de café, avec l'autorité du patron derrière le zinc, tout cela et bien d'autres choses devraient, je l'espère, affluer vers notre micro. Non sans que diverses permanences se mêlent à de puissantes mutations, depuis la Révolution jusqu'à nos jours, mais de cela, ici, nous sommes familiers.
Mon bistrot, sais-tu que bien souvent, quand le cafard me prend, chez toi je viens rêver. Mon bistrot, tout comme à nos 20 ans, sur tes nappes en papier, j'écris le verbe aimer. Toi, tu vis et tu t'en fous pas mal. Moi, je viens dans ta salle, un peu pour oublier. Mon bistrot, là dans ton vieux décor, que tu ne changes encore pour quelques habitués. Mon bistrot, quand t'arrives des clients, tu te prends pour le printemps, t'es tout illuminé. Toi et moi, on en connaît, dis donc, des secrets, mais pardon, je ne peux les dévoiler. Mon bistrot, avec ton air de rien, t'as même trouvé le moyen pour mieux m'ensorceler. Mon bistrot, d'un coup d'accordéon, tu tu m'envoies tes flonflons et je marche à ton ciné. C'est idiot, mais quand tu me fais la cour, je m'imagine qu'un jour je t'achèterai mon bistrot.
Eh bien, c'était une chanson interprétée par Annabelle Buffet, une chanson de Frédéric Botton sur une musique de Alain Goraguer, une chanson de 1969. Laurent Bille, bonjour.
Bonjour, Jean-Noël Jeannet.
Vous vous trouvez là dans votre univers familier ?
Familial aussi, oui. Mon père était l'avocat des débits de boissons et j'ai grandi dans les cafés. Je crois que ça s'apprend pas. Certains grandissent sur des stades, dans des stades de football. Moi, c'était le café. Et je vis au café. Je corrige mes copies au café. Je prends mes petits déjeuners au café. Et le café est une annexe naturelle de mon chez-moi, de ma demeure. Je ne m'imaginerais pas vivre dans une rue dans laquelle il n'y a pas de café.
Vocation en somme dynastique.
Presque.
Je voudrais aborder une question très grave. C'est la question de l'origine du mot bistrot. Nous avions appris, nous, qu'elle remontait à 1815 avec l'arrivée des Russes à Paris après la défaite de Napoléon et qu'ils disaient bistrot, bistrot, ce qui voulait dire en russe vite, vite. Et puis vous nous dites que ce n'est pas du tout l'origine. Voilà un premier.
Ah bah c'est pas moi qui le dis. Moi, j'aurais bien aimé que cette légende qui est tellement jolie, j'aurais bien aimé la mettre en tête de mon livre. Mais le problème, c'est que je suis historien et que c'est pas un livre d'anecdotes. Alors, j'ai été obligé d'aller voir des linguistes, des grammairiens.
Ils nous disent quoi?
Ils disent Alain Rey, ils disent que c'est sans doute une contraction entre la bistouille et la bistrouille. Alors, la bistouille, c'est un café avec un peu de marc. Et la bistrouille, ça serait une espèce de breuvage, là encore plus ou moins chaud, plus ou moins alcoolisé. Il y a une tendance beauceronne dans le deuxième, et il y a une tendance nordiste dans le premier. Et donc voilà, donc ça aurait donné bistrot, oui.
Bistrouiller signifierait boire un mauvais alcool servi directement dans un verre ou dans une tasse avec un reste de café.
C'est ça.
Ça aurait pu aboutir aussi à bistroquet ?
Oui, tout à fait. Le bistroquet ou le mastroquet, c'est effectivement le lieu. Et de toute façon, au départ, le bistrot, c'est la personne. Le bistrot, c'est celui qui tient le lieu. Et puis, par extension, c'est devenu le lieu.
Je me réfère à la formule de Pascal Auric que je citais tout à l'heure, votre préfacier, qui disait que c'était une métonymie. Vous ratifiez, j'imagine, cette formule.
Bien sûr, bien sûr.
Willy, vous savez, il est surtout connu aujourd'hui, ce romancier, comme ayant fait travailler Colette. Mais avec cette formule qui m'a frappé, écrire l'histoire du café serait à peu de choses près écrire l'histoire de France. Vous ratifiez cela ?
Je ratifie, c'est une belle formule qui a le mérite de poser en quelque sorte la difficulté de l'entreprise. Parce que c'est une entreprise qui a presque l'air trop simple. Celle que j'ai essayé de mener à bien, mais je me suis trouvé confronté à une quasi-absence d'ouvrage de référence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thèse sur le bistrot, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ouvrage de référence.
Enfin, Laurent Bilvin.
J'ai tenté effectivement de mettre une première pierre à un édifice qui doit donner lieu, j'espère, à d'autres exemples, parce que c'est un bouquin déjà un peu volumineux, mais qui a vocation à éveiller plein d'autres réalisations, plein d'autres écritures. Je suis très surpris. Et en écrivant d'ailleurs, j'avais la terreur de voir chaque mois sortir une histoire panoramique des bistrots de la part d'un confrère, parce que ça me semblait tellement dingue qu'il n'y ait jamais eu quelqu'un de renom et de quelqu'un de plus connu que moi qui se soit attaqué à ça. C'est tellement à la confluence de différents courants historiographiques, c'est tellement un lieu d'histoire politique, d'histoire sociale, d'histoire culturelle, d'histoire économique.
Même religieuse, si on prend en compte la distance que l'Église a toujours eue, très méfiante envers ces lieux éventuellement de perdition morale.
Absolument, donc il y a quasiment une paire entre l'Église et le bistrot, c'est donc Camillo et Pépone.
Et vous montrez qu'il y a autant d'établissements que de catégories sociales en fait.
Oui, c'est d'une diversité, d'une variété qui n'en finit pas. Et ça a été un des grands plaisirs que j'ai eu à faire ce livre, de ne pas me contenter de l'Assommoir de Zola ni du grand café des grands boulevards, mais aussi d'aborder le bistrot portuaire, d'aborder l'auberge de grand chemin, d'aborder le cabaret de la campagne ou le buffet de gare.
Charles Trenet, le grand café, l'Assommoir de Zola, vous annoncez déjà nos archives de tout à l'heure. Mais je ne sais pas comment vous les connaissez, mais je vous en félicite. Nous allons concentrer l'attention sur les deux derniers siècles.
Oui.
En fait, c'est le moment de votre curiosité.
Je l'ai fait partir en 1789 parce que sinon, il me fallait un tome Pléiade. Et mon éditeur a été déjà très généreux de me laisser une totale liberté. Il était quand même raisonnable de faire partir le livre de la Révolution.
Alors partons-en et même un peu avant. Je vais vous faire entendre une chanson qui va peut-être nous conduire tout droit dans l'atmosphère des cafés de 1789 et de la suite. C'est une chanson qui remonte en fait à 1760 et qui s'appelle La Guinguette de Ramponneau, chantée ici par Philippe Meyer, bien connu à Radio France.
Chantons l'illustre Ramponneau, dont tout Paris raffole. On a chez lui du vin nouveau, les filles qu'on cajole. C'est là que Michaud renverse Isabeau sur le cul d'un tonneau. On danse au son du tambourin, on fait la cabriole. On se bat, on se prend au crin, on se frotte, on se frôle. Puis on en revient au vin qui soutient, à Catin qui vous tient. Lorsque l'on est là de Catin, on embrasse Nicole, qu'on abandonne le matin pour Suzon qu'on bricole, ou pour Jeanneton, ou pour Margoton, ou pour Mamselle Tonton. Le vin fait revivre l'amour et lui rend la parole. Le vin a soif et tour à tour, on boit et l'on s'accole. Couché ou debout, ici, là, partout, sans crainte d'être sous. Existe et zeste, point de chagrin, on y rigole avec du vin. Existe et zeste, point de chagrin, on y rigole avec du vin.
La Révolution française, donc, Laurent Bille, on peut commencer le récit du côté du Palais Royal, puisqu'au fond, Camille Desmoulins, dans ses propos fameux, en montant sur une chaise, était proche à la fois du café de Foix, du café de Chartres et du café mécanique.
C'est l'image d'Épinal, que cet entassement et que de ce discours, ce qui déjà nous donne à penser que la terrasse n'était pas familière, elle n'était quasiment qu'au Palais Royal, parce que d'habitude, les cafés étaient quand même un phénomène d'intérieur. Les grands cafés parisiens, c'était un phénomène donc qui montait sur un étage et qui n'avait pas l'habitude de sortir dehors. Alors là, il se trouve qu'au beau jour, on sort les tables, on sort les chaises, et Camille Desmoulins, saisit l'opportunité sans que l'on sache, parce qu'on l'a complètement oublié, qu'un certain nombre de gardes suisses disposés autour, ces mêmes gardes suisses qui gardaient la Bastille, étaient dans des guérites et faisaient commerce illicite de vin et étaient totalement ivre-mort, ce qui explique qu'on ne l'ait pas arrêté, ce Camille Desmoulins. Cela dit, le Paris révolutionnaire, ou ici pré-révolutionnaire, est inscrit de cette problématique. Je voudrais vous citer ce rapport d'Étis de Corny, procureur du roi, qui dénonce en juillet 1788 un souterrain élaboré entre les guinguettes, hors du mur d'octroi, et le territoire soumis au droit d'entrée. Et par un système de soufflet, le vin passe par-dessous. Et tac, la lieutenance du guet, après avoir longtemps cherché trace de ce trafic, parce que c'était des hectolitres qui arrosaient le Paris Nord, il les trouve en 1788, et immédiatement, les trafiquants, les cabaretiers prennent un autre système, parce qu'il leur reste la voie aérienne, et ils utilisent de petits ballons chargés d'environ 5 pintes chacun, jusqu'à 20 pour certains, pour en arriver finalement à un trafic aérostatique, là encore en 1788, ce qui montre bien l'activité de la lieutenance du guet pour éradiquer ce trafic.
La police déjà. Là.
Et oui, et leur succès est peut-être une des causes aussi de cette émulsion populaire en 1789, un été où il fait très chaud, où on a très soif et où le vin manifestement manque presque autant que la poudre.
Et on affirme dans cette atmosphère-là que le vin serait une boisson égalitaire, républicaine et patriote. Et le tout selon une géographie déjà des lieux de consommation que vous esquissez.
Il y a plusieurs types de vins pour plusieurs types de lieux. Il y a effectivement le vin du cabaret extrêmement populaire du Faubourg Saint-Antoine. Il y a le vin fin dans le grand café du Palais Royal. Il y a des cafés déjà politisés dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a aussi une myriade de lieux intermédiaires, de lieux anonymes, dans lesquels il n'est pas tant qu'il y ait eu des prises de parole, des discussions enfiévrées, qu'il y ait eu cette espèce de colère montante qui a débouché finalement sur cette colonne, ces colonnes qui sont parties vers la Bastille, ou plus tard qui sont parties vers Versailles, chercher le roi, la reine et le petit Mitron. J'ai lu les reconstitutions de la marche sur Versailles, et le départ de la marche sur Versailles, elle va vraiment de café en café.
J'ai l'impression, en somme, Laurent Bille, que vous vous appropriez cette histoire de révolution sous la lumière de votre beau sujet, les bistrots. Le vin, qui d'ailleurs est déjà soumis à une législation, on se méfie de la fraude.
Ah oui, considérablement. Alors là, bon, il y a toutes les sortes de fraudes possibles, hein. On mouille le vin, on le trafique, on ne peut plus. Il y a effectivement plusieurs types de fraudes. Elles vont, avec le 19e siècle, elles vont s'améliorer, elles vont s'intensifier. On a coutume de dire que on ajoute du sulfate de chaux dans le fin pour en accélérer la fermentation. Ça s'appelle le plâtrage. On y met de l'arsenic, des acides sulfuriques. Alors, au 19e siècle, la crise du phylloxéra va encore aggraver la chose. Il y a la bière aussi, hein, qui est soumise à des manipulations absolument invraisemblables. Mais c'est vrai que le vin est un des produits les plus trafiqués, hein, qui soit. Une ordonnance de 1672 prévoit ainsi que ceux qui mettront dans leur vin de la litharge, du bois des Indes, hein, du Campeche, des raisins de bois, myrtille ou érelle, de la colle de poisson et mixtion seront punis de 500 livres d'amende et punition corporelle. Bon, boire du vin, c'est un risque, mais comme boire de l'eau, c'est un risque aussi à une époque où l'eau est terriblement dangereuse, surtout par les mois d'été. Comme dirait ce cher Olivier Véran, c'est toujours une affaire de bénéfice-risque. Mais par rapport au vin, il y a une question de bénéfice qui joue.
Il n'est pas le seul à le dire. En somme, il y a une sorte de va-et-vient, d'hésitation entre ces deux types de consommation. Buvez du vin, car c'est plus sain.
Oui, puis buvez de l'eau de vie aussi, parce qu'il y a aussi, à partir du XVIe siècle, le problème des alcools distillés, qui va en fait devenir véritable problème de santé publique au XIXe siècle. Les deux problèmes qui vont toucher en fait le public, c'est la montée des eaux de vie, avec la multiplication des bouilleurs de crue, et la montée des alcools industriels.
Après la période de j'allais dire, dévergondage, mais ce serait déjà une observation morale, de développement des cafés que connaît la période thermidorienne, en particulier le relâchement d'après la Terreur, le régime impérial est plus puritain.
Ah oui, le régime impérial se méfie beaucoup des cafés et va tenter de mettre en place le vieux rêve des lieutenants générales du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de quadriller les cafés, de s'en servir comme un formateur. Ce qui obsède en particulier le Premier Empire, c'est les cafés, ce sont les cafés qui pourraient accueillir des déserteurs. Et donc, le café comme relais de la désertion, de l'insoumission, du brigandage, c'est une préoccupation très très vive des pouvoirs publics. Mais il n'empêche que, malgré son odeur de soufre, le café mène à tout à condition d'en sortir. Ainsi, ce cabaret de François Crétet, de bon voisin à la frontière entre la France et la Savoie, qui va avoir comme fils, grandit donc au bord du Zinc, Emmanuel Crétet, comte de Champmolle, et qui va devenir en 1806 gouverneur de la Banque de France et en 1807 ministre de l'Intérieur. Le fils d'un bistrotier ministre de l'Intérieur, reconnaissait quand même que ce Premier Empire savait choisir ses aides.
Les cafés, les débits de boissons sont aussi le lieu où émergent, où se développent les chansons. Je pense à ce fameux caveau qui existait déjà sous l'Ancien Régime et qui renaît sous l'Empire, où on va voir fleurir le talent de Béranger en particulier. Cela aussi inquiète.
Alors, ça inquiète d'autant plus que la parole est interdite à partir de la Restauration, et il va y avoir là-dessus une filiation étonnante entre le régime impérial et le nouveau régime royal de 1815.
On va en particulier surveiller de près les goguettes.
Énormément.
Rappelez-nous la différence entre goguette et guinguette.
Alors, guinguette, on danse, goguette, on chante. Et donc,
c'est tout simple.
Non, mais la guinguette, on va y passer, on va y pique-niquer, on y va en famille. La guinguette, c'est un lieu où l'on boit, où l'on danse, c'est un lieu hors barrière, c'est un lieu du dimanche. La goguette, c'est une société chantante. Et il faut comprendre, mais ça, c'est Philippe Dargula qui l'a étudié bien mieux que moi, il faut comprendre à quel point la goguette a accueilli toute la subversion politique qui était interdite dans une presse qui était interdite. Et donc, la disparition pendant 15 ans de l'imprimé a fait que la parole politique s'est manifestée généralement dans les cafés sous deux biais, la chanson d'une part et l'ivresse de l'autre.
Nous avions fait ici, voici peu, une émission consacrée à Béranger. On voyait en particulier que le procès qu'a organisé contre lui le procureur du roi a été très très significatif. Ce procureur explique que c'est affreux, cette chanson, parce que elle circule sans qu'on puisse la contrôler. Et d'ailleurs, Béranger lui-même s'est hâté ensuite de publier le procès lui-même, ce qui a confirmé les craintes du procureur.
Dargula m'avait raconté qu'il avait, lui, trouvé une entrevue entre Michelet et Béranger, où Michelet demandait à Béranger de lui expliquer le peuple. Parce qu'il était, pour Michelet, le dépositaire d'une fibre populaire qui était portée par la chanson, donc dans le lieu cabaret, ça c'est sûr. Mais lieu cabaret qui, par l'ivresse, poussait aussi certains à trop parler, et on reste totalement stupéfait devant l'avalanche de procès-verbaux, d'arrestations et de condamnations, parfois à des années de prison ou à des peines de bagne, des gens qui simplement ont trop parlé et ont crié « Vive l'empereur !» en des temps où il ne faisait pas bon le dire, même sous état d'ébriété.
Balzac, d'ailleurs, évoque à diverses reprises cette opposition des légitimistes et des bonapartistes au café. Regardez ce début de La Rabouilleuse, où il parle de Philippe Brideau. Philippe Brideau, qui est un colonel demi-solde. Le soir, au café Lamblin, au café Minerve, le colonel Philippe déblatéra contre le parti libéral qui faisait des souscriptions, qui vous envoyait au Texas, qui parlait hypocritement des soldats laboureurs, qui laissait des braves sans secours dans la misère, après leur avoir mangé des 20 000 francs. Les soldats laboureurs, c'est le fameux Chauvin, mythe du demi-solde.
Mais c'est bien que vous parliez de La Rabouilleuse, parce que Philippe Brideau, c'est un roman tellement extraordinaire. Philippe Brideau va partir à Issoudun, et à Issoudun, il va donc tomber amoureux de Flore Brasier, donc une belle de café, et il va affronter le brigand, le mauvais garçon du lieu, Maxence Gillet. Et l'affrontement entre Philippe Brideau et Maxence Gillet dans cet Issoudun où justement on se croise au café est absolument formidable. J'en profite pour dire, parce que j'ai vraiment tenu à terminer mon livre là-dessus, que cette formule attrape-mouche de Balzac, le café c'est le parlement du peuple, est vraiment à proscrire complètement, parce que c'est une formule qui est une formule, oui, il a dit, mais c'est une formule pour critiquer le bistrot et non pas pour l'encenser. C'est un lieu où le peuple bavarde et il fait cette évocation dans Les Paysans, et c'est une évocation d'un bistrot, d'un café de campagne qui est un repère de brigands absolument épouvantable. Et il est quand même étonnant que cette critique, mais venimeuse de Balzac, et en même temps stupéfiante, les trois pages vraiment jubilatoires, c'est quand même étonnant de voir que cette critique de Balzac soit devenue le porte-étendard d'aujourd'hui, de tous ceux qui prétendent parler du bistrot et en faire un organe démocratique qu'il est par ailleurs.
Combien y a-t-il, on le sait, de bistrots, de débits de boissons dans cette France du mi-temps du 19e siècle ?
On est dans les 300 000 à peu près. On va arriver au chiffre de 480 000 en 1908. Je crois que le chiffre vient de Nourrisson, mais il est étayé par de nombreux écrivains du moment. Et contrairement à ce qu'on dit aussi de temps en temps, ce n'est pas la veille de la Première Guerre mondiale qu'il y a le record. On dépasse les 500 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais attention, le chiffre à la veille de la Seconde Guerre mondiale est plus fiable que celui de la veille de la Première Guerre mondiale, car le nombre des cabarets clandestins a baissé. Et évidemment, le chiffre de 1908 ne compte pas les cabarets clandestins qui sont beaucoup plus nombreux que 30 ans plus tard. Et donc l'offre du boire, l'offre de boissons, est sans doute à son ampleur totale, à son pinacle, à la veille de la Première Guerre mondiale.
Avec déjà l'éventail qui va d'un certain nombre d'établissements chics qui commencent à se développer, notamment à Paris sur les grands boulevards, jusqu'au Bouge, le plus douteux et le plus propre à inquiéter, les Argousins.
Alors voilà, donc c'est vraiment à Paris que nous avons cet éventail magnifique qui part à peu près de la Madeleine et du Café Anglais, qui passe par Tortoni, qui arrive...
Tortoni, le glacier.
Voilà, le fameux glacier, donc la première terrasse, le premier à disposer des chaises, qui va au Café des Variétés. Et puis petit à petit, en fait, quand on avance sur le boulevard du Crime, on va avoir, à partir de la césure du Faubourg Montmartre, une variété de cafés qui va aller vers le peuple, en se popularisant, en se populaciant.
C'est oui, le monde de Casque d'Or.
C'est le monde de Casque d'Or, c'est le monde des enfants du paradis. Et il y a une véritable, oui, décroissance sociale.
Vous faites allusion au film de Marcel Carné.
Bien sûr.
Les enfants du paradis.
Et donc, qui porte sur le boulevard du crime. Et donc, il y a un déploiement de l'éventail social parisien, du plus riche au plus populeux, au fur et à mesure que l'on prend la ceinture vers la Bastille et que l'on arrive vers la Bastille.
Quelque part entre les deux, plus tard, dans l'entre-deux-guerres, Charles Trenet chante Le Grand Café.
Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du Grand Café, de ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le Grand Café m'a inspirée. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installé devant la grande table, on écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du Grand Café. Par terre on avait mis de la sciure de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit. Bien installé devant la grande table, vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer soudain l'addition, vous avez déclaré, moi j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisqua tous vos effets, vous étiez fait au Grand Café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manières. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au Grand Café, au Grand Café.
Permanence dans cette... belle évocation de Charles Trenet, cette chanson fameuse.
Ah, formidable, c'est une ambiance et qui montre le café comme un lieu de perpétuel mouvement. Et c'est ça, de bruit et de mouvement.
Dès ce moment-là, dès ce 19e siècle, on est sensible à cette opposition entre ombre et lumière. Il y a l'ouverture des nouveaux établissements chics sur les boulevards, et puis il y a l'ombre des bouges, je vois, à propos de vos citations, celles que vous donnez du publiciste Paul de Kock à propos d'un de ces bouges. L'intérieur de ces cafés est effrayant, le gaz n'y est point connu, et l'huile y étant très ménagée, il n'y règne qu'une lumière douteuse et qui est encore assombrie par une épaisse fumée, car les habitués du lieu fument la pipe, ou plutôt le brûle-gueule, à la bouche. à travers cette atmosphère épaisse, chaude, humide, à laquelle se mêlent les vapeurs du vin, de l'eau de vie, de l'ail, de l'oignon, et la transpiration de ces messieurs qui ne se débarbouillent que lorsqu'ils tombent dans le ruisseau, vous apercevez cependant des tables et un billard. On y est.
Ah, elle est superbe cette citation. Je défie le pilier de comptoir d'aujourd'hui de pouvoir entrer dans un café de ce type de l'époque. Impossible. Tellement l'atmosphère était à couper au couteau, les cafés étaient fermés, ils étaient clos, il y avait des rideaux aux fenêtres, il y avait des grilles, les devantures étaient souvent peintes en rouge sang de bœuf, et le café n'était pas du tout un lieu ouvert, le café populaire, à l'inverse exact du grand café des grands boulevards, qui est un lieu scopique, qui est un lieu scopique où il y a un bouleversement du voir. Walter Benjamin en tire la conclusion qu'il y a une relation amour-haine de l'homme attablé en face de son propre reflet avec les terrasses et les glaces intérieures. Le café des grands boulevards, c'est un lieu où la société bourgeoise moderne aime se regarder elle-même. C'est un lieu scopique où le flâneur s'arrête pour voir passer les passants. C'est le lieu du poète hein, qui voit passer la femme. « Oh, toi que j'eusse aimé, toi qui le savais !» Ce café est un lieu à la fois totalement refermé sur lui-même dans sa version populaire et scopique, transparent, myriadant de lumière dans sa version aristocratique ou grande bourgeoise.
Ce 19e siècle est aussi celui où le journalisme, Laurent Bille, trouve dans le café dimension, décor essentiel. Je vois que les frères Goncourt, par exemple, décrivent les journées de leur personnage Nachette, qui incarne une plume vipérine qui émerge dans les feuilles satiriques. Ils couraient, disent-ils, les cafés. Ils couraient les cafés, les divans, les brasseries, les débauches de l'esprit parisien et ces mauvais lieux, s'aiguillonnant, se fouettant le cerveau, cherchant à retremper et à entraîner sa verve au bruit des mots, au choc des paradoxes, à tous les pugilats de l'ironie.
À une époque où le métier de journaliste n'existe pas, il y a là une fonction très parisienne qui est celle de l'écotier. Et l'écotier trouve ses échos dans les cafés, d'une part. Alors là, on a la figure de tous ces journalistes, encore une fois chez Balzac, hein, dans Les Illusions Perdues, qui se retrouvent au café. Et genre, donc les hommes de lettres du Cénacle, hein, d'Arthez, Chrétien, Rubempré et Bixio, surtout Bixio. Et derrière, la réalité, c'est que un certain nombre de ces hommes intermédiaires entre grande presse et petite presse vont parfois fonder des journaux dans les cafés et monter de véritables rédactions au premier étage des cafés. Alors voilà, on a par exemple au café des variétés, à un moment, on a quasiment une privatisation de l'étage et vous avez des titres comme Le Corsaire qui vont être faits dans les cafés. Le Mousquetaire d'Alexandre Dumas était que contigu à un café et il faisait des allers-retours comme dans un duplex en quelque sorte. Il y a une intimité du café et du journal qui fait du café un lieu médiatique. Ça, c'est absolument évident.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Toute la littérature du temps, naturaliste en particulier, considère le café aussi dans ses relations avec le monde ouvrier. Et l'Assommoir de Zola demeure un titre emblématique. Je voudrais vous donner à entendre la description de l'Assommoir telle que Zola nous la propose.
L'Assommoir du Père Colombe se trouvait au coin de la rue des Poissonniers et du boulevard de Rochechouart. L'enseigne portait en longues lettres bleues le seul mot « distillation » d'un bout à l'autre. Il y avait à la porte, dans deux moitiés de futaille, des lauriers roses poussiéreux. Le comptoir énorme, avec ses fils de verre, sa fontaine et ses mesures d'étain, s'allongeait à gauche en entrant. Et la vaste salle tout autour était ornée de gros tonneaux peints en jaune clair, miroitant de vernis, dont les cercles et les cannelles de cuivre luisaient. Plus haut, sur des étagères, des bouteilles de liqueur, des bocaux de fruits, toutes sortes de fioles en bon ordre, cachaient les murs, reflétaient dans la glace, derrière le comptoir, leurs taches vives, vert pomme, or pâle, lac tendre. Mais la curiosité de la maison était, au fond, de l'autre côté d'une barrière de chêne, dans une cour vitrée, l'appareil à distiller que les consommateurs voyaient fonctionner, des alambics au long col, des serpentins descendant sous terre, une cuisine du diable devant laquelle venaient rêver les ouvriers soulards. L'Assommoir, Émile Zola.
L'Assommoir, c'est une œuvre emblématique, Laurent Bille.
Ça fait plaisir de réentendre la voix de Rosy Wart, la voix qui, dans Mon oncle Benjamin, dit « chien d'ivrogne » en allant chercher Jacques Brel et Armand Mestral de café en café. Oui, l'Assommoir, c'est effectivement c'est le temple.
Oui, mais vous avez reconnu la voix de Rosy Wart. Effectivement, c'était un extrait de l'émission « Tant qu'il y aura des bistrots » de juillet 1977, une émission de Marie-Hélène Pinel. Rosy Wart, en effet.
Et oui, et donc de cette femme qui, d'ailleurs, tient un bistrot dans le bar de la Fourche, qui est un autre film un peu moins connu avec Jacques Brel aussi. Mais de toute façon, l'Assommoir, oui, c'est effectivement la référence incontournable, même s'il faut le rappeler, le roman de Zola a été très mal accueilli des ouvriers. Les ouvriers l'ont très peu apprécié et ils ont trouvé que Zola chargeait un peu la barque. Bon, certains docteurs hygiénistes pensaient qu'au contraire, ils ne la chargeaient pas assez. Ce qui met déjà, en fait, le discours sur l'alcool et les réalités de l'alcool comme pathologie publique, comme pathologie sociale, au centre de cette étude sur les bistrots. Et là, on est confronté effectivement à deux choses qui s'entrecroisent. D'un côté, l'alcool comme fléau, et de l'autre côté, le bistrot comme lieu de rencontre, lieu d'effervescence et lieu de contestation, lieu de plaisir et lieu de subversion. Alors, les deux, il faut évidemment ne pas dire que le bistrot est parfait, ne pas dire non plus que c'est un lieu uniquement d'alcoolisme. Alcoolisme qu'il n'est pas forcément, ou qui n'est pas forcément tout le temps. Et je dirais, il faut bien les différencier. Parce que vous avez effectivement des assommoirs, dont d'ailleurs une concentration importante se trouve place Maubert.
En particulier, l'établissement du père Lunette, fameux à l'époque, entre Saint-Séverin et la place Maubert. La place Maubert qui est d'ailleurs un lieu de, effectivement...
De perdition totale. Là, c'est vraiment le lieu où l'on trouve tous les becs salés, chers à Valès, hein, ou les pieds humides, c'est-à-dire les lieux où l'on boit debout presque dehors.
Vous citez tous ceux qui ont critiqué énormément les bistrots de ce point de vue-là comme lieu de perdition. Vous citez Valès, bien sûr. On pourrait citer aussi Jules Guesde et la comtesse de Ségur.
Bien sûr. Alors voilà, les contestations viennent des deux camps. Et c'est tout à fait passionnant, justement, de voir qu'il y a là... un discours à front renversé, à front politique renversé, qui fait du café, justement, un lieu de contradiction, un lieu contradictoire. Mais là encore, il y a effectivement des bouges, des assommoirs, mais il y a aussi des cafés, de nombreux cafés, dans lesquels l'alcoolisation dépend des horaires. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont des lieux populaires très tranquilles et qui deviennent des lieux d'alcool à l'embauche et à la débauche des usines, ou des ateliers. Donc, il ne faut pas oublier non plus à quel point le cabaret peut être un lieu protéiforme et dépendre considérablement des heures auxquelles on le prend. Et c'est ce qui m'a amené à écrire dans mon livre que le café était un lieu de discordance de temps. Voilà. Un lieu de discordance des temps, et en particulier, au fur et à mesure que le temps industriel s'est accéléré, le lieu café où le temps s'arrête a été magnifié par les poètes et dénoncé comme un lieu d'oisiveté. Donc, voilà, pour moi, c'est un lieu de discordance de temps.
Je salue cette formule. L'explication de la présence des ouvriers tient aussi au fait que leur domicile est souvent peu accueillant et que c'est là qu'ils vont se retrouver. Je vois que la fameuse Flora Tristan, grande... magnifique figure de la lutte ouvrière dans ces années-là, nous lui avions consacré une émission, Flora Tristan écrit, pose la question « Pourquoi les ouvriers vont-ils au cabaret ?» Dans l'état actuel des choses, le cabaret est le temple de l'ouvrier, c'est le seul lieu où il puisse aller, l'église, il n'y croit point, le théâtre, il n'y comprend rien. Voilà pourquoi les cabarets sont toujours pleins. À Paris, les trois quarts des ouvriers n'ont pas même de domicile, ils couchent en garnis dans des chambrées, et ceux qui sont en ménage logent dans des greniers, où la place et l'air manquent. Par conséquent, ils sont forcés d'en sortir.
C'est exactement ça. Mais Flora Tristan est beaucoup plus fiable alors là que je ne pourrais l'être, parce que elle est évidemment, elle est sur place, mais elle résume toutes les problématiques sociales du moment où effectivement la nécessaire prophylaxie en termes d'alcool s'accompagne de la part d'un certain nombre d'élites socialistes d'une nécessaire politique du logement. Et c'est parce que l'exode rural met dans la ville, gonfle la ville de jeunes gens qui arrivent dans le dénuement le plus total que le café devient le lieu naturel de rencontre et d'acculturation à la ville.
Cette seconde partie du 19e siècle est aussi le moment où l'absinthe vient prendre dans les habitudes du café une importance essentielle, l'absinthe. Un texte de Raymond Queneau m'a frappé où il décrit l'absinthe, nous en parlerons ensuite.
Je comparerais volontiers l'absinthe à la montgolfière. Elle élève l'esprit comme le ballon la nacelle. Elle transporte l'âme comme le ballon le voyageur. Elle multiplie les mirages de l'imagination, comme le ballon les points de vue sur la sphère terrestre. Elle est le flux qui emporte le rêve, comme le ballon se laisse guider par le vent. Buvons donc. Nageons dans le flot laiteux et verdâtre des images oniriques désagrégées, en compagnie des habitués qui m'entourent. Leur face est sinistre, mais leur cœur absinthé s'absente le long d'abscisses abstruses et peut-être abyssines.
Queneau, du pur Queneau.
C'est magnifique. C'est magnifique. L'absinthe, c'est vraiment le modèle du produit industriel. En 1850, en 1860, l'absinthe est aristocratique, elle est chère. Elle est véritablement magnifiée par les poètes. C'est un produit de luxe. Et puis, en 30 ou 40 ans, il va y avoir une explosion de la production, un abaissement des coûts qui va en faire un produit populaire, au moment même où la crise du phylloxéra va dévaster complètement la production de vin.
L'absinthe existait déjà au XVIIIe
siècle.
Bien sûr. Je vois dans Zadig de Voltaire qu'il écrit « Le premier mois du mariage est la lune de miel, le second, la lune de l'absinthe », ce qui était un peu pessimiste. Au XIXe siècle, effectivement, il devient très accessible et on voit les consommateurs d'absinthe dans toutes les grandes œuvres des impressionnistes, on voit dans Van Gogh, on le voit dans également dans Toulouse-Lautrec, et puis les consommateurs, ce sont Degas, Maupassant, Apollinaire, l'absinthe, qui est un vrai poison.
C'est un poison.
Et qui est en même temps défendu passionnément par les fabricants eux-mêmes, notamment dans la région de Pontarlier et ailleurs. C'est un vrai lobby. Si bien qu'on a dû atteindre la guerre de 14 pour en imposer l'interdiction.
Alors, l'interdiction en 1915, il a fallu la guerre, hein. Et ça a été effectivement quelque chose de très important, et ça n'a pu passer que parce que les producteurs de vin ont eu à ce moment-là un monopole, un quasi-monopole pour alimenter les tranchées avec un achat très important de la part des forces armées. Donc je dirais que l'un a équilibré l'autre, mais la question qui s'est posée, c'est en 1919, est-ce qu'on rétablissait l'absinthe? Où est-ce qu'on continuait à interdire les anis? Parce que c'est toute la production d'anis qui a été interdite. Et il y a eu, là encore, un fort lobbying des anisiers, ou des producteurs d'anis ou d'apéritifs, qui ont en fait réussi à imposer le Pernod, puis le Ricard à 40, puis 45 degrés, tout en renonçant à une absinthe qui était quand même démonétisée, oui.
Triomphe du pastis, effectivement, sous l'influence de Ricard.
Dans les années 30. Les années 30, c'est vraiment le triomphe de l'apéritif. Mais au 19e siècle, ne nous y trompons pas, il y a beaucoup d'absinthe au pluriel. Il y a des absinthes très chics, très chères, toujours très alcoolisé, mais où l'alcool est fait de façon correcte. Et puis, il y a de véritables casse-pattes, à peine verts.
Casse-pattes, je ne connaissais pas la formule.
Qui sont véritables, ou casse-poitrine, l'expression existe aussi, qui sont en fait de véritables machines à enivrement et qui sont des breuvages qui aident à supporter la misère, hein, qui n'ont pas d'autre vocation.
La boisson, vous en parlez à merveille, Laurent Bilm, revenons aux lieux mêmes qui sont les sujets de notre émission, c'est-à-dire les bistrots. Je vais vous faire entendre ce qu'en disait Roland Barthes en février 1977. C'est une émission de Jean-Marie Benoît.
Je donne souvent mes rendez-vous au café, comme beaucoup de Français. Le café est très important dans ma vie. Je veux dire que même en Italie, n'est-ce pas, il n'y a pas vraiment de café avec des terrasses. Alors que c'est une chose que j'aime énormément en France, les cafés. Et ce qu'il y a de merveilleux dans les cafés français, je dirais là que c'est encore une façon de faire l'éloge de l'indirect, c'est qu'au fond, il faut bien s'accorder sur ce fait que les Français vont au café pas du tout pour boire. Ils y vont pour parler. On va au café, au fond, on se moque tout à fait de ce qu'on va commander. La plupart du temps, c'est une sorte de pure formalité. On commande par soustraction ce qu'il vous est le plus indifférent de boire. En réalité, c'est un lieu, effectivement, semi-public, semi-privé, qui permet un enfermement dans la conversation, mais à travers une espèce d'espace sonore assez riche et qui est très ouvert, n'est-ce pas, et qui intimise la conversation sans l'intérioriser, n'est-ce pas? Je crois que ça devrait être mis en rapport d'ailleurs avec les caractères traditionnels, disons, de ce qu'on appelait autrefois l'esprit français. Au fond, ce sont des lieux pour moralistes, les cafés.
Vous rejoignez, Laurent Bilm, cette description, l'ambivalence de vos chers bistrots?
Oh que oui, parce que c'est tout, justement, Barthes a bien saisi toute cette ambivalence entre un lieu d'endogamie sociale et un lieu de brassage, entre un lieu collectif et un lieu individuel, entre un lieu normatif et un lieu de transgression, entre un lieu de joie et parfois un lieu de colère, un lieu violent. Le bistrot n'est que paradoxe. Et cet aspect protéiforme ne pouvait qu'émerveiller Barthes, parce que c'était exactement ça qu'il cherchait, qu'il aimait. C'est ce qui a valu aussi à Pérec sa fameuse production d'une journée entière ou de 48 heures passées à décrire une vie de café minute par minute.
Devant Saint-Sulpice.
C'est ça. Et cet émerveillement du XXe siècle, déjà bien avancé, de ces derniers grands auteurs du XXe siècle, montre bien qu'ils ont déjà conscience qu'un lieu est en souffrance, menacé, et est en train peut-être de disparaître.
Il est menacé. Alors, il y a un groupe de bistrotiers qui en seront spécialement chagrins, ce sont les Auvergnats.
Oui, absolument. Les Auvergnats qui sont montés à Paris d'abord pour vendre du charbon, puis du vin, et puis qui ont fini par vendre du vin et du charbon, puis seulement du vin, et qui se sont établis petit à petit en coterie, jusqu'à créer un journal, l'Auvergnat de Paris, et une Ligue Auvergnate. Et là, on a quelque chose de
politique
tout à fait
aussi
fantastique. Oui.
Parce que qui a été longtemps le président?
Louis Bonnet.
Non, mais je pensais à Pierre Laval.
Ah d'accord, oui, après Louis Bonnet, bien sûr. Ah, mais au début de la Ligue Auvergnate,
député de la région,
il y a, et j'ai retrouvé, une véritable déclaration d'amour de Gambetta au cafetier, au bistrotier. Et Gambetta, comme chacun sait, va disparaître. Et il y a cette osmose continue à travers les successeurs du radicalisme. Alors Clémenceau, je n'ai pas trouvé de traces, mais par contre, juste à la mort de Gambetta, Locroy continue à aller voir d'année en année le syndicat des cafetiers. Et les cafetiers sont à l'époque la proie de la répression des fraudes, à l'époque dans les entrepôts de Bercy, menée par un certain Girard. Et les bistrotiers, les Auvergnats, vont se plaindre et se plaindre et se plaindre aux républicains des ennuis, des troubles dans lesquels les entretient ce Girard. Et là-dessus, les républicains vont faire la sourde oreille. Toujours le fameux problème de la santé publique, de la prophylaxie nécessaire. Et les Auvergnats, la Ligue Auvergnate, vont basculer avec armes et bagages dans le boulangisme. Et c'est absolument étonnant de voir comment cette Ligue républicaine bascule dans le boulangisme. L'aventure boulangiste termine, comme on le sait, et la première chose, ou l'une des premières choses que fait le ministre Constant, une fois Boulanger parti, c'est d'amnistier toutes les contraventions dont ont écopé les bistrotiers 3 ou 4 ans auparavant. Il y a là quand même un arrière-fond social de l'aventure boulangiste qui me paraît intéressant.
Il faut dire que les Auvergnats dans le monde des bistrots sont très prédominants. 70% à Paris dans
l'entre-deux-guerres. À l'époque, c'est colossal.
Le Marcelin Caas, fondateur de LIP, étant une personnalité à cet égard tout à fait emblématique.
Ah, il a débarqué vraiment en train et il était 3 heures après avoir mis les pieds à Paris. Il était en train de charrier des dizaines de kilos de charbon à l'âge de 13 ans.
Charbon et bistrot, voilà. Le lien est évident, d'autant plus que le mot de bougna semble précisément venir de là, l'étymologie.
Le charbougna. C'est le charbougna. Et donc, ces gars qui ont commencé à la dure se sont retrouvés au terme d'efforts et d'investissements et de prise de risques à la tête de véritables temples à une époque où l'esthétique de la brasserie a finalement transformé les cafés des grands boulevards dont nous parlions tout à l'heure dans des établissements plus tournés vers la bourgeoisie, mais non plus la bourgeoisie élitiste, vers le tout Paris, véritablement. Et on fait de ces brasseries des lieux à la fois de culture et des lieux de passage où de nombreuses personnes allaient dîner le soir.
Je ne voudrais pas vous quitter, Laurent Bill, sans un hommage aux garçons de café, cher à Jean-Paul Sartre notamment, dans la Nausée ou ailleurs, et qui joue un rôle important au moment du Front populaire. Nous allons terminer notre conversation sur cette attachante catégorie sociale.
Alors, le garçon de café est une personnalité particulière de Paris, qui est à la fois mi-chemin entre le titi parisien et le domestique, puisque la plupart du temps, au départ, suite à la Révolution française, ce sont d'anciens domestiques qui se sont donc reconvertis. Le garçon de café...
En 36,
fait une grève, complètement oubliée des mémoires.
Si, il y a des films, on les voit défiler avec, leur plateau.
Oui, mais dans les livres...
Et leur serviette sur le bras.
Dans les livres, on ne trouvera absolument presque jamais qu'ils ont en fait redynamisé le mouvement de 36 à partir du 6 juin. Et en 37, ils ont continué le mouvement dans une deuxième grève que j'expose quasiment jour par jour, ce qui m'a donné vraiment la grande joie de voir un mouvement social atypique où certains grévistes allaient s'attabler au milieu des consommateurs en commandant des bières et asperger les consommateurs de bleu de méthylène pour leur dire qu'ils n'avaient pas le droit de consommer lorsque Paris des serveurs étaient en grève.
Voilà, c'est renversement des rôles propres au carnaval.
Tout à fait. Et il y a aussi dans les cafés des Champs-Élysées qui sont les plus visés, vous avez des cordons de compagnies républicaines de sécurité qui entourent, de gardes mobiles à l'époque on dit, qui entourent les cafés, ce qui fait que les consommateurs en fait s'approprient complètement les lieux et les gèrent en autogestion faute de personnel, ce qui alors rend les dames et les messieurs de bonne compagnie complètement fous de joie, ils s'amusent comme des fous pendant que les serveurs défilent, eux, ils font le service. Alors voilà, c'est à l'époque, c'est vraiment une période haute en couleurs et qui menace même la tenue de l'exposition de 1937.
Vous les aimez, ces bistrots des années du Front populaire. Vous avez été chagrin, naturellement, des problèmes qu'ils ont rencontrés, dernier mot, au moment du Covid. Peut-être que cela a d'ailleurs jouer un rôle pour vous inciter à écrire ce livre.
Absolument. On a constaté que le confinement avait vraiment commencé à minuit, à la fermeture du dernier café. Toutes les chaînes d'information continue étaient rue de Lappe pour voir fermer les derniers cafés. Et à minuit, le confinement y était. Et on a considéré le confinement comme terminé au moment où les cafés ont réouvert. Ce qui montre bien que le café est véritablement le baromètre du bien-être de notre société. Et il y a eu à ce moment-là un certain nombre d'articles dans Le Monde, dans Libé, où les journalistes attestaient d'une renaissance, d'une impression de revivre, parce qu'ils pouvaient enfin se mettre au comptoir ou à la terrasse d'un café ou d'un bistrot.
Merci beaucoup, Laurent Bill. Je voudrais terminer en citant un magnifique propos du piéton de Paris, Léon-Paul Fagg.
Que nous aimons tant.
À laquelle vous faites un sort. J'ai dans ma boîte à souvenirs des odeurs de par-dessus, des passages de chiens sous les tables, des bruits de soucoupes mêlés à des chutes de ministères, des colères d'horloge, des rires de jolies femmes tombées là comme des plumes de tourterelles, des rondelles de théorie qui devaient tout arranger ou tout chambarder, des poignées de main qui ne renaîtront plus.
En espérant que les cafés, eux, ne vont pas mourir et que les poignées de main pourront toujours se faire à l'ombre des comptoirs.
Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Laurent Bille, « L'histoire des bistrots », paru aux éditions du Nouveau Monde en 2023. Les éditions qui sont dirigées par...
Notre ami commun, Yannick Dehaye, un vif merci de m'avoir invité, c'était un plaisir.
Vous avez rendu hommage aussi, nous parlions de curiosité dynastique à votre propos, au livre de votre père, Luc Bille Villette, qui s'appelait « Des tavernes au bistrot, une histoire des cafés », paru en 1997 à l'âge d'homme. Vous l'avez aidé à achever ce livre ?
Ah oui, à l'époque, il était très malade. Et il avait déjà conscience qu'il y avait un manque, que la bibliographie était quand même orpheline d'un ouvrage nécessaire. Et avec toute sa science de juriste, hein, c'était l'avocat des débits de boissons, mon père, et avec sa fibre littéraire, sa sensibilité si particulière, sa culture générale étonnante, il s'était attelé à la tâche. Et le cancer l'a rattrapé. Et c'est tout naturellement que 25 ans plus tard, j'ai pu reprendre ce flambeau. Quand on me l'a proposé, la chose m'a semblé naturelle. Ça faisait 25 ans que je le portais en moi, ce livre.
Je voulais vous donner l'occasion de dire les ressorts de cette fidélité. Vous avez beaucoup fait fond sur les travaux de Didier Nourisson, excellent historien en particulier de la nourriture, et qui a écrit en 2013 un livre paru chez Perrin, Cru et cuite, histoire des buveurs, et puis un livre plus ancien qui avait également frappé, qui s'appelait Le buveur du 19e siècle, paru chez Albin Michel en 1990, d'autres titres bien sûr, sur notre site, dans notre bibliographie plus complète, avec les références et documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission.
Les petits bistrots aux pinards fleuris, nappes à carreaux et biftecs garnis. Les petits bistrots où l'on vient goûter devant le perco, le premier café. Les petits bistrots qui n'ont pas de jukebox, seulement la radio pour suivre la boxe. Les petits bistrots où j'ai des amis, Robert et Jojo, et Simone aussi. La patronne est à la cuisine, le patron derrière son comptoir. On parle du Tour et du Racing, devant un rouge ou un petit noir.
Les petits et tandis que vous entendez la chanson de Jean Ferrat, qui s'intitulait « Les petits bistrots », une chanson de 1962. Je vous rappelle que vous venez d'entendre « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Frédéric Kérou et Benjamin Troncin, avec à la discothèque Keating Wang, avec Isabelle Fort-Rendu pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et pour la documentation Sophie Cheblin.
Et Simone aussi. La patronne est à la cuisine, le patron derrière son comptoir. On parle du Tour et du Racing, devant un rouge ou un petit noir. Les petits bistrots, quand je suis loin d'ici, à Londres, à Tokyo, j'en rêve et je me dis que les petits bistrots qui sont à Paris, je les reverrai bientôt. Salut les amis, les petits bistrots au poêle à charbon, avec l'apéro, la belote au fond. Et les petits bistrots, c'est comme un béguin, toujours on y revient dans les petits bistrots.